Vous êtes sur Studio ZEF à Blois ou Radio Béton à Tours et c'est l'heure de Feuilles Vives, l'émission de reportage entre ville et campagne. Pour sa 24e émission, Feuilles Vives vous emmène en rêve partie avec le projet Rêve de quartier, lancé au printemps 2016 et qui s'est achevé le 26 avril dernier. 2 ans pour recueillir des rêves d'habitants des quartiers nord et ouest de Blois, les mettre en images, les exposer et finalement montrer que leur réalisation n'est peut-être pas aussi utopique que ça. Présentation de ce projet au nom énigmatique par son initiatrice, la photographe Sandra Vanessa Liégeois, et par Julie Leroy, coordinatrice de Culture du Cœur, une association de lutte contre l'exclusion par l'accès à la culture et qui porte le projet.
L'idée de départ était de recueillir les rêves des gens pour savoir ce qu'ils avaient en tête et pour pouvoir ensuite réaliser à partir de ça des photos dans les quartiers et puis des collages pour mettre en scène les rêves.
Tout le cœur du projet, donc Sandra Vanessa est une artiste photographe, c'était une éducation à l'image, valoriser, donner une bonne image des quartiers via l'éducation à l'image. Donc il y a eu une récolte des rêves, puis des sorties pour prendre des photos dans les quartiers justement, puis pour après faire des ateliers de collage à base des photos que les habitants avaient prises dans le quartier, et puis en fait, mettre en image les rêves avec les images qu'ils avaient prises et puis des supports divers. C'est ce qui a créé l'exposition Rêves de quartier qui a déambulé dans 3 sites de Blois l'été dernier, de juillet à octobre.
Alors pour Blois et ses quartiers, mon rêve, ça serait d'avoir un grand jardin plein de fleurs avec des animaux auxquels on pourrait pique-niquer tous ensemble.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est votre rêve ?
Moi, c'est que j'aimerais avoir la mer à Blois.
D'accord. Juste ça ?
Oui.
Alors pour moi, un rêve de quartier, ce serait un quartier où tous les gens se respecteraient, seraient ouverts, souriants et prêts à rendre service aux uns aux autres, par exemple.
Je voudrais que les arbres soient en forme de sucette pour que la ville se régale.
L'idée, c'était de demander aux gens de quoi ils rêvaient pour leur quartier, que ce soit des choses réalisables ou non. Là, aujourd'hui, c'est la rêve partie 2, donc c'est la clôture du projet Rêve de quartier, pour essayer de mettre en place de petites actions pour montrer que la plupart des rêves qui ont été recueillis, ceux qui étaient réalisables, la plupart l'étaient assez facilement avec pas grand-chose. Et en fait, il y a plein de petites choses qui se mettent en place à Blois qui sont pas forcément remarquables dans le sens pas forcément énorme, mais qui sont remarquables dans le sens vertueuse et qui permettent que la ville soit plus verte, plus jolie, plus agréable, plus pleine de nature, puisqu'en fait les rêves tournaient beaucoup autour de ça, de la nature. Et puis après, il y avait beaucoup de choses en fait sur ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire du partage, des découvertes, et des choses aussi autour de la récup. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui vient la ressourcerie Les Bonnes Manières, avec la fabrication de tawashi, qui sont des éponges à partir de tissus récupérés.
Il vous faut des collants très épais ou des chaussettes très épaisses, et on compte des vêtements, parce qu'après ça se lave, au lieu de jeter l'éponge ou de... voilà, vous la passez à la machine à laver et elle est à nouveau propre, vous pouvez la réutiliser. Donc vous en faites plusieurs. Alors je vous montre. Il faut couper des bandes comme ça. Il vous en faut 10. On va les... je vous montre juste pour
faire... même temps.
Voilà, il faut les... voilà. On va en mettre 5 dans un sens et 5 dans l'autre sens. Donc, en essayant de faire, on peut mettre 2 couleurs, c'est plus joli parce que ça fait... Donc, je vous laisse couper. Alors, ouais, jusqu'en haut, là, vous pouvez faire. Mais on ne peut pas
faire. Faire revenir tout ce monde-là aujourd'hui, c'est aussi partager un temps festif, parce que souvent, sur ces projets qui sont financés, arrive la phase de clôture et puis on se dit au revoir et puis on fait plus rien. Et là, la symbolique, c'est vraiment de se dire que non, déjà on peut rêver encore et qu'on peut continuer à garder ces liens qu'on a tissés, continuer à faire des choses ensemble. Et c'est aussi important de montrer ce qui est en train de se créer. Donc il y a beaucoup de collectifs culturels, et là par culturel j'entends culture au sens large, qui se montent en ce moment à Blois, et notamment par exemple la ressourcerie, qui fait des choses pour que des objets qui sinon ne seraient pas réutilisés revivent, et qui crée comme ça énormément de projets et de liens sociaux, en fait. Et donc c'est pour ça que c'est important de se retrouver pour à la fois faire le constat évidemment que ça existe, partager ça avec de nouvelles personnes pour le faire connaître, et puis célébrer tout ce qu'on a fait pendant 2 ans. Moi, je crois pas que j'aurais absolument véhiculé une image positive si ce que les gens avaient ressorti, c'est que c'était noir et sombre et qu'ils voulaient tout changer. Là, c'est venu des gens eux-mêmes, et c'est un constat qu'on a fait que finalement, quand on commence, donc une autre des valeurs, ce serait la solidarité. Finalement, quand on commence à parler de rêver la ville, on se rend compte que les gens parlent de solidarité, de paix dans le monde, de verdure, de nature, de choses qui sont quand même assez universelles.
Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est de voir ces personnes qui sont soit en situation d'exclusion, soit qui vivent dans des quartiers exclus, on va dire, c'est que... En fait, beaucoup de rêves valorisent leur lieu. J'aimerais voir la mer, par exemple, à Blois, ce genre de choses. Mais il y en a qui valorisent beaucoup. Il y a des choses très pragmatiques. J'aimerais que les routes soient mieux faites. J'aimerais que mon bâtiment soit en meilleur état, ce genre de choses. J'aimerais une cohésion sociale. J'aimerais qu'il n'y ait plus de racisme, ce genre de choses. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus... onirique, ouais, vraiment. Et ça permet de dire aux gens que vous avez le droit de vous autoriser à rêver, quoi. Et rêver, ça peut être aussi, on peut rêver, mais aussi on peut concrétiser certaines choses. Alors, à notre échelle, ça va être des rêves de nature, parce qu'il y a énormément de rêves, la moitié des rêves, pratiquement, c'était des rêves liés à la nature, de déminéralisation des quartiers. Et donc, là, à notre petite échelle, on essaye de concrétiser certains rêves, et puis de mettre en valeur aussi cette maison du parc, cette ferme de Brisbane, là, qui est en plein cœur, qui est vraiment dans un lieu, le verrou entre le quartier nord et le quartier ouest. Il y a ça qui existe à côté. On peut s'autoriser à rêver, mais qu'il y a des moyens, il y a des ressources. Vous voyez, là, il y a le collectif des rêves, vous rencontrez, il y a plein d'associations dont vous n'aviez pas entendu parler, qui peut-être vont vous permettre de faire des choses que vous pensiez être juste de l'ordre du rêve, mais qui, en fait, existent à côté de vous. Et puis, ça a permis aussi à certaines personnes de s'engager dans différentes manifestations qui ont lieu dans les quartiers nord et les quartiers ouest de Blois.
Les quartiers nord et ouest de Blois sont 2 quartiers résidentiels qui mêlent grands ensembles et petits pavillons rapprochés où se concentrent les populations minoritaires et ou marginalisées, et qui cumulent les problématiques afférentes au développement urbain périphérique. Insécurité, exclusion, fragilité économique et monotonie paysagère. Des problématiques que l'on retrouve dans les différents rêves de cohésion sociale, d'égalité et de nature exprimés par les participants au projet Rêve de quartier. Plus de la moitié des habitants des quartiers nord vivent en zone prioritaire de la politique de la ville. Rénovation urbaine, développement économique, cohésion sociale, implication des habitants, ce dispositif territorial implique les services de l'État, les collectivités locales, mais aussi divers opérateurs publics, bailleurs sociaux et acteurs associatifs, au travers d'un contrat de ville. Le projet Rêve de quartier, par exemple, qui agrège des maisons de quartier, des espaces jeunes, des associations de lutte contre l'exclusion, est soutenu par le contrat de ville de Blois. On écoute Julie Leroy.
Pourquoi dans les quartiers nord et ouest de Blois, enfin surtout les quartiers nord, c'est parce que pour avoir des financements de la politique de la ville, il faut que l'action et les partenaires soient dans cette zone géographique. Et ici, je trouve qu'on est chanceux, malgré certaines difficultés, en tout cas sur les quartiers politiques de la ville de Blois. On a des infrastructures, on a des personnels associatifs qui sont hyper motivés, qui proposent plein de choses. Alors c'est toujours difficile, hein, mais... Les habitants y répondent quand même, et je trouve qu'il y a une énergie qui est quand même hyper intéressante, et que dans mes précédentes activités professionnelles et dans ma vie personnelle, c'est quelque chose que j'avais pas encore vu, quoi. Donc c'est hyper gratifiant.
Mais oui, de fait, les problématiques d'exclusion, les problématiques paysagères, les problématiques qui sont évoquées dans les rêves et qui sont aussi derrière, qui sous-tendent le projet, et c'est ces quartiers-là qui vont être très sensibles à ces questions-là. Parce qu'il y a beaucoup
bien sûr. Exactement, c'est ça. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu énormément de rêves liés à la nature. Et on a la chance sur Blois aussi d'avoir des nouvelles initiatives, comme le collectif de Métairie, par exemple, qui propose des nouvelles choses. Enfin, les jardins partagés, c'est en train de se développer dans tous les quartiers, c'est qu'il y a vraiment un besoin de sortir un peu de toute l'évolution paysagère urbaine qu'il y a eu des années 50 aux années 80, et que oui, y a quand même plus de choses à faire dans ces quartiers-là, et on le voit grâce notamment au plan de rénovation urbaine, les quartiers nord, comment ils sont aujourd'hui et comment ils étaient il y a 15 ans, il y a quand même une évolution et positive aussi, je pense, des quartiers, dû tout simplement aux efforts qu'on a fait pour remettre un peu la nature au cœur des quartiers. C'est une volonté politique, mais le fait de réamener la nature, de revoir le paysage des quartiers avec ce plan de rénovation urbaine, c'est tout un ensemble, quoi. Et c'est pas juste pour faire mettre un peu de verdure, repeindre les bâtiments. Je pense que tout ça, ça participe aussi au fait de valoriser des quartiers et de dire aux habitants, voilà, il s'y passe plein de choses. Vous voyez, c'est pas l'image qu'on s'en fait, quoi. Enfin, je sais que les animateurs des différents relais sociaux avec qui je travaille, tout ce qui est sorti nature et tout ça, ça change totalement le comportement aussi de leur public. Donc si on peut apporter ce genre de choses et réinsérer de la nature dans nos quartiers, je suis la première convaincue.
Et du coup, ce recueil de rêves et cette restitution, est-ce qu'elle a un impact, enfin quel impact est attendu sur la politique de la ville derrière ce...
Quel impact? C'est aussi... Peut-être être prescripteur de planter des champs de bonbons, des champs de sucettes dans les quartiers, j'en sais rien. Non mais blague à part, c'est aussi une transmission des attentes des habitants, de montrer aussi qu'ils sont fiers de leur ville dans leur intégralité. Hein. Et que, je sais pas, une demande d'être soutenue aussi. Et c'est valorisant, ça peut être hyper valorisant aussi pour les habitants, ceux du collectif des rêves, et même les structures sociales pour être peut-être un peu plus entendues, même si c'est déjà bien le cas, je trouve. Ça s'intègre en tout cas, si ce n'est une redite, ça s'intègre totalement dans l'initiative. Je suis désolée. Ça s'intègre complètement dans ce que souhaite la ville, dans la demande du politique. De toute façon, ça reflète ce que les habitants nous disent et ils sont force de proposition. Ça leur donne aussi une assurance, la confiance de se dire bon voilà, c'est possible de proposer quelque chose et d'être écouté.
La vie de quartier m'intéresse. Et puis je trouve que les gens disent des choses intéressantes en plus pour souvent améliorer leur quartier, qu'il soit plus beau, que les gens se rencontrent un peu plus. Donc voilà tout ce qui fait un peu la vie de quartier.
Michel, habitant des quartiers ouest et bénévole au centre social Quinière, sur son engagement au sein du collectif Rêve de quartier.
Ça permet de rencontrer quand même du monde, des gens de diverses origines. Et puis les gens disent un peu ce qu'ils veulent construire quoi, dans leur quartier ou améliorer. Et puis c'est le vivre ensemble quoi, qu'il y a derrière, hein, mieux vivre ensemble. Donc ça passe par l'écoute des gens et puis faire des choses ensemble avec eux, faire avec eux donc, ce qu'ils veulent, ou on cherche aussi, hein, mais avec des idées qui peuvent surgir. Qu'on n'aurait pas pensé comme ça, mais que les gens, eux, ils ont en tête. Moi au centre Quinière aussi j'étais pas vraiment à l'initiative, mais je participe pas mal au café de l'amitié aussi qui existe à la Quinière. Avant c'était un peu le café senior qu'on appelait ça, et puis on a dit bon, on élargit plus parce que ça fait un petit peu retraité. Donc maintenant café de l'amitié, donc il y a un tas de gens qui passent des fois un quart d'heure ou une heure qu'on a l'habitude, des fois qui passent une fois tous les deux mois, mais c'est pas grave. Donc c'est des points d'accroche intéressants où ça permet, on voit que les gens aiment bien en rencontrer d'autres, et puis donc je vois ça comme expérience, oui, qui sont intéressantes, hein, notamment. Et
vous disiez le café de l'amitié, on était un peu entre retraités, bon, dans mais ces associations, oui. On se retrouve souvent entre copains, entre gens intéressés,
oui,
par les
gens...
mêmes choses. Comment est-ce qu'on sort de ça, justement? Comment est-ce qu'on va chercher des gens qui sont un petit peu tout le temps chez eux, comme vous en parlez, pour leur faire découvrir ce qui existe autour d'eux, pour leur...
Aller à l'extérieur, c'est pas facile. On peut, disons, si on a des amis qui sont dans le quartier, leur dire que ça existe. Après, bon, il y en a qui passent au centre parce qu'ils passent pour autre chose. Et ils disent, tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon, on les accroche, on essaye de les accrocher comme ça. Ou alors j'ai eu, là, il n'y a pas longtemps, une dame que je connaissais, bon, qui ne vient pas spécialement, enfin, il y a peut-être passé une fois ou deux, elle a dit, bah, je connais quelqu'un qui est plutôt, qui n'a pas d'amis, qui reste plutôt chez elle. Bah, je lui dis, tu lui en parles, et puis il faut qu'elle vienne. Et puis, là, je l'ai pas vue ce matin, mais elle est venue la semaine dernière. Donc elle avait l'air bien à l'aise, bon, j'ai discuté avec elle, j'ai discuté avec d'autres en prenant un café. Et puis ben là, ça l'a fait sortir de chez elle. Donc c'est finalement, c'est par les contacts, hein, faut parler aux gens. Donc faut pas hésiter à proposer. Donc c'est un peu de la, je dirais, de la responsabilité entre guillemets, mais de chacun pour que ça vive quoi aussi. Hein. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Donc ça, il faut, quand on voit quelqu'un, de près ou de loin, même entamer la discussion, même si on dit tiens, cette personne-là, je ne lui ai jamais parlé, mais je la croise presque tous les jours quand elle va au pain ou acheter je sais pas quoi, à la poste, et puis bah pourquoi pas lui entamer la conversation. Bon, si ça prend pas, ça prend pas. Hein. Mais lui dire, bah voilà, tiens, si ça vous intéresse, il y a ça qui existe.
Il faut y aller, c'est du travail de terrain. Hein, et ceux qui travaillent sur le terrain, ça peut être des gens très très variés. Quoi. Donc c'est avant tout comme ça, ça se fait physiquement, moi je le vois. Il ne suffit pas de diffuser l'information. S'il n'y a pas des visages identifiés, ça ne fonctionne pas. D'où l'intérêt vraiment de la médiation culturelle.
Oui, c'est pas envoyant.
Il ne suffit pas de dire, il y a ce spectacle-là, il y a cet événement-là, pour que les gens s'y déplacent. Même des gens qui ne sont pas en situation d'exclusion. Moi, par exemple, hein, qui ne sont pas, en tout cas, qui ne vivent pas dans les quartiers nord ou dans les quartiers ouest. Il n'y a pas que ces personnes-là qui sont en situation d'exclusion, hein, mais... Il ne suffit pas qu'on me dise, il y a ça, c'est gratuit, il y a ça à côté pour que je me déplace. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui me dise, bah, tu vois, il y a ça pourrait te plaire parce que, par rapport à ce que tu aimes, ou peut-être que tu pourrais venir avec ton frère parce que je sais qu'il... S'il n'y a pas une prescription, on sait que c'est toujours comme ça se passe par le bouche à oreille, et il faut qu'il y ait des visages qui soient identifiés, et ça se vérifie dans toute la population en général. C'est pas spécifique, je pense pas que ça soit spécifique aux personnes dites en situation d'exclusion.
Eh ben, mon rêve de quartier, c'est se promener en barque sur le lac. Je sais pas si ça sera réalisé. Et puis dans ce qui était plus utopique, mais je crois qu'il arrivera jamais, alors je sais bien qu'il y a le parc de la Roue qui donne un peu de relief, mais moi j'aime bien le relief, et c'était mon rêve qui, je pense, se réalisera jamais, mais on sait jamais, c'est de voir un peu les montagnes ou des collines à l'horizon, parce que j'aime bien tout ce qui est un peu qui sort du plat, mais rien que la vallée de la Roue, bah, ça donne déjà une bonne perspective quand on se promène. Et puis là, bon, on rencontre du monde aussi, on rencontre des gens, donc ça rejoint tout ce qui est nature, un peu, tout ce qui est nature, important, et puis bah, le contact avec les gens.
Le parc de la Roue est une vaste étendue végétale qui sépare des quartiers nord et ouest, encore pauvres en espaces verts publics. La municipalité décide sa création au milieu des années 70 pour préserver le vallon de la Roue de l'urbanisation. À son extrémité ouest, l'ancien étang de Pigelet, en lisière de la forêt de Blois, est aménagé pour devenir le lac de la Pinsonnière. Le parc s'étend ensuite vers l'est, le long du petit ruisseau de la Roue qui lui donne son nom, et s'achève au niveau de la ferme de Brisebar qui accueille cette rêve partie faite de clôture du projet Rêve de quartier. Cette ancienne exploitation agricole, devenue jardin pédagogique, est l'incarnation des rêves de verdure et de cohésion sociale exprimés par nombre d'habitants des quartiers nord et ouest de Blois. Vincent Vernon anime et jardine cet espace depuis 2008. Il accueille surtout des élèves d'école élémentaire pour des animations autour des légumes et de l'écosystème qui les entoure.
En tant que jardinier, je parle essentiellement des végétaux. Là, en l'occurrence, des végétaux qui se consomment, donc des légumes. Et puis, par le biais de ces plantes, on voit aussi quelles sont les interactions qu'il y a par rapport à tout ce qui nous entoure. Voilà. Et en particulier, les insectes et autres, voilà, qui vivent sous la terre, sur les feuilles, les fleurs, pour bien montrer que le jardinier n'est pas seul à faire pousser ses légumes. Voilà. Il a des aides, ce qu'on appelle des auxiliaires. Le plus connu peut-être l'abeille, le ver de terre, le cloporte, donc qui nous aident réellement à faire développer nos plantes, nos légumes. Si ça peut simplement déjà dans un premier temps pour les enfants maternels, primaires, de prendre conscience de ce qui les entoure et de nommer les choses. Et quand on commence à nommer les choses, les vers de terre, les abeilles, voilà, les papillons, les coccinelles, nommer les plantes aussi, les plantes désirables et peut-être un peu moins désirables, ça peut-être permettre de respecter un petit peu mieux son environnement. Voilà. Quand on connaît les choses, quand on commence à nommer, peut-être qu'on a un autre regard en grandissant. Après, tiens, Vincent, il m'a montré ça il y a quelques années de ça, je me rappelle. Ah ouais, tiens, voilà. Ça peut donner du sens à ce qui nous entoure. Le potager est distribué, on va dire, avec des petites parcelles qui font à peu près un mètre de largeur, qui permet aux enfants de pouvoir atteindre le milieu de cette petite parcelle avec ses mains, sans marcher dessus. Voilà. Donc ce sont des parcelles relativement étroites, pardon, mais qui sont comme ça accessibles avec les mains, pour si on doit gratter, si on doit semer des graines, planter des petits légumes. Voilà, donc il y a un côté très accessible. Et après, la disposition des légumes, c'est tenter de donner du volume. Voilà. Que ce soit joli pour les yeux. Voilà. Alors là, cette saison-ci, on n'est qu'au début des plantations. Les semis sont en partie faits, mais les plantations pas encore. Et donc donner du volume, donner de la couleur, donner de la diversité aussi, ça c'est important. Et là, on retombe un petit peu dans la notion d'écosystème avec les auxiliaires. Ne pas avoir des rangées que de poireaux, des rangées que de pommes de terre, voilà. Là, on a fait une tentative de culture en lasagne. Donc, succession de couches de broyage, ce qu'on appelle le brin, qui va apporter du carbone, et de tonte d'herbe, de gazon, qui va apporter donc l'azote. La conjugaison de ces différentes couches, donc d'où le nom lasagne, va faire que ça va se transformer en compost. Et ça, c'est pour montrer que quand on n'a pas de sol chez soi, quand on n'a pas de terre, on peut créer une terre artificielle sans forcément apporter du terreau. Voilà. On prend ce qui pousse dans les parages, donc de l'herbe que l'on va couper, de l'ortie, pourquoi pas, c'est même excellent l'ortie. Et ça, c'est un exemple de ce qui peut être fait aussi. Si on habite dans un endroit où on n'a pas de sol, voilà. On crée son propre sol. Si je parle d'un potager qui pourrait typique de ce qu'on pourrait trouver en campagne, bon, là on est un peu déconnecté. Là on est en ville, la maison du parc est vraiment ceinturée de maisons, de quartiers. Donc, moi, ce que je vais tenter d'aborder, c'est ce qui va parler aux personnes qui viennent. Donc, effectivement, dans l'aspect, le côté urbain, on n'a pas forcément beaucoup de terre, de terrain, de surface. Ou parfois, on a même de la terre, c'est plutôt type remblai, donc pas du tout intéressant pour les plantes. Donc, trouver des astuces, voilà, pour pouvoir, malgré tout, cultiver des légumes, des fleurs, même si on n'a pas de terre. Donc, voilà, essayer de donner du sens aux personnes qui viennent, que ça les captive.
Et justement, c'est quoi la valeur d'avoir cette structure-là, pédagogique, paysagère, culturelle, dans un tissu urbain ?
D'éviter de se déconnecter du vivant. Voilà. On a besoin de la terre, on a besoin des plantes, on a besoin des animaux. Et parfois, quand on vit effectivement en ville, parfois, on peut être tout complètement déconnecté. Voilà, on fait les courses au magasin, à la grande surface. Et ouais, les légumes, bon, on trouve ça dans les rayons au fond à gauche, là-bas. Mais avant, il y a quand même une histoire. Il y a quand même des gens qui ont produit, des personnes qui ont produit, qui ont fait pousser ça. Donc c'est voilà, pour essayer de se reconnecter au vivant. Et le vivant, ben, il n'y a pas besoin d'aller très loin quoi, pour le trouver. Voilà. Donc rien qu'un pré. Ce qui pousse dans un pré, ce qui pousse en lisière d'une forêt, voilà, ça, ça raconte quelque chose. Alors là, je ne suis pas du tout historien, mais j'ai retrouvé des plans du cadastre de Louis, de Napoléon Ier, qui date d'à peu près 1810, et la ferme de Brisbard est indiquée sur le plan cadastral. Voilà. Donc c'est cette ferme-là était là depuis bien des années. Et je crois qu'elle a été, les derniers agriculteurs ont travaillé ici, je ne vais pas dire de bêtises, mais jusqu'en 85. J'ai rencontré il y a quelque temps de ça la dernière personne qui a travaillé ici en tant qu'agricultrice et qui m'a ainsi raconté comment elle vivait avec sa famille, voilà, à la ferme de Brisbard. Donc je crois qu'il s'était installé en 55 jusqu'en 85 ou 86, ouais, ça doit être ça. Et donc c'était vraiment une exploitation agricole. Et cette personne-là a vu l'évolution, comme elle est arrivée en 55 ici, a vu l'évolution de l'urbanisme, voilà, jusqu'au départ à la retraite. Et ensuite, ça a été vendu, il me semble, donc directement à la ville de Blois.
Sous Napoléon, la Blois, ça allait même pas jusqu'à la gare, quoi. Donc c'est vraiment une ferme qui a vu le...
C'était, on voit sur le plan cadastral... Mais on était à la campagne, quoi. La ferme de Brisbard était effectivement... Il y avait la Frileuse, une ferme de la Frileuse, qui est toujours présente, qui se rapproche du rond-point Médicis. Là. Et c'était totalement isolé. Et la ville, progressivement, s'est rapprochée de la ferme. Et la ferme, c'est un petit peu le village gaulois, quoi, a résisté et est toujours bien présente, ouais, effectivement.
Et en même temps, c'est un village gaulois et en même temps, c'est aussi une partie de la ville qui a évolué par rapport à elle. Enfin, on imagine que la commercialisation a dû aussi évoluer au fur et à mesure de la progression du tissu urbain et aujourd'hui encore, elle vit encore en relation avec ce tissu urbain, finalement.
Tout à fait. La personne que j'ai rencontrée me racontait que elle vendait le lait des vaches, aux gens qui habitent donc à la Quinière et côté ZUP, voilà. Et parfois aussi, je rencontre des gens qui se baladent dans le coin, me disant « Tiens, quand j'étais petit, je venais chercher le lait ici. » Voilà. Donc les gens ont su s'adapter aussi, les agriculteurs ont su s'adapter aussi au changement, à l'arrivée de la ville autour de la ferme. Et puis, on continue à interagir. D'une autre façon, bien sûr, mais à interagir avec les gens du quartier, des quartiers nord et ouest.
Ouais. Ça montre que finalement, ces espaces-là, où on se dit « Ah, ils perdent leur vocation agricole ou industrielle, comme la friche qu'on voit à côté, et donc ils ne servent plus à rien », mais non, en fait, il y a toujours possibilité de les requalifier, de les réutiliser, de se grandir sur ce passé-là pour développer...
En tout cas, c'est ce qui a été fait pour la ferme de Brisbard, oui. Il y a... Voilà, moi je suis là toute l'année, voilà, je reçois du monde toute l'année, enfin quasiment toute l'année, oui. De temps en temps, je m'occupe un peu du potager malgré tout, j'essaye. Et donc, il y a un réel échange. Et ça je pense que c'est la base, quoi, de ce projet de créer ce potager, c'est qu'on crée un lien, un tissu.
C'est bientôt la fin de cette 24e émission de Feuilles Vives. Aujourd'hui, nous étions à la ferme de Brisbard pour la fête de clôture du projet Rêves de quartier. Des rêves pour tisser des liens entre habitants et structures institutionnelles ou associatives, tisser des liens entre quartiers, entre terre et asphalte, entre habitats collectifs et déjeuner sur l'herbe. Médiation culturelle, projets collaboratifs et mise en valeur paysagère sont des outils d'intégration des habitants à leur environnement, c'est-à-dire d'insertion sociale dans un territoire. Dans les quartiers résidentiels de nos périphéries de villes et de villages, je rêve de cours de ferme où les habitants chantent et dansent comme des poules zazou. Retrouvez podcasts et documentation complémentaires dans la rubrique Feuilles vives du site studiozef.fr. Rêveuses et rêveurs, à bientôt.
Un bon fermier découvrit un matin, dans sa basse-cour, une poule fort étrange.
Viens donc, Mélie, viens donc voir, je croyais aux mains que la noiraude a quelque chose qui la démange. Elle a l'air contente, elle n'a pas l'air méchante, mais pour ce qu'elle chante, j'y comprends rien. Elle fait, tiens, écoute-la, elle fait... Oh.